voulons en effet nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur. Et je vous invite à lire la suite de l'Épître aux Éphésiens que nous lisons ensemble depuis quelques mois maintenant. Et nous lisons dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 3, à partir du verset 10. Philippiens 3, à partir du verset 10, l'apôtre Paul dit tout ce qu'il a reçu de Jésus-Christ. Et il dit aussi son but désormais, maintenant qu'il connaît le Seigneur Jésus. Mon but, dit-il, est de le connaître, lui, Jésus, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais pour nous, notre cité et notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, frère bien-aimé, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne. Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Jusqu'ici, notre lecture. Comment envisagez-vous la conduite de votre vie ? Êtes-vous de ceux qui marchent à l'objectif ? Ou préférez-vous prendre la vie comme elle vient ? Avancer en fonction de ce qui se présente en improvisant au fil des circonstances. J'avoue ne pas être personnellement très fan d'une vie où tout est programmé d'avance. Je n'aurais jamais supporté qu'on dessine ma vie comme certains parents qui ont déjà, dès le berceau, quasi programmé leur enfant pour qu'il devienne au temps choisi champion de tennis ou star de cinéma. J'ai du mal à dire « dans un an, je dois avoir réalisé tel objectif » ou « dans deux ans, être arrivé à tel résultat ». Mais je dois malgré tout me faire mes listes de tâches à accomplir pour la journée, pour la semaine, pour le trimestre à venir. Et c'est bon d'avoir un but, c'est nécessaire, afin de s'orienter en fonction de ce but. Cela fait du bien aussi que de pouvoir se dire qu'on a atteint tel objectif et que, fort de cela, on peut partir plus loin. Je parlais de moi. Certains sont beaucoup plus volontaristes. Ils savent exactement où ils veulent aller et ils se tiennent à leur cap. Ils font tous leurs choix en fonction de leurs objectifs de vie. Il faut reconnaître que l'efficacité est souvent de ce côté-là. Ceux qui aboutissent à quelque chose de significatif sont en général ceux qui l'ont voulu, qui l'ont visé, qui ont tenu leur projet. L'improvisation permanente, c'est agréable, c'est léger, mais cela ne construit pas énormément. Il faut des buts, des cadres, des régularités, des orientations. On l'a bien compris, en tout cas, dans le monde du travail. Beaucoup de salariés se voient désormais attribuer des objectifs qui sont régulièrement réajustés. Et je pense que certains d'entre vous, vous connaissez bien cela. Être ou ne pas être dans ces objectifs, cela devient la question existentielle pour certains, la lutte de chaque jour. Et du coup, une fois le travail terminé, on aspire à vivre sa vie de manière un peu plus relâchée. Alors, et notre vie à Dieu, avec tout cela, comment fonctionne-t-elle? Est-ce que ça va fonctionner à l'improvisation, au petit bonheur la chance de ce qui surviendra, de ce qui se donnera, à la discipline, aux objectifs bien dessinés et tracés à l'avance? Paul nous parle dans notre texte de sa façon d'envisager la vie chrétienne. Et il est clair, quand on a lu ce texte, que Paul l'envisage d'une manière plutôt orientée, avec un style plutôt volontariste. Il parle d'un prix à remporter, d'un but à atteindre. Et il se décrit comme un coureur engagé dans une course qui se porte vers l'avant, sans regarder en arrière. Il précise même, je me fixe sur une chose, courir vers le but. Et il nous invite tous à voir cette même pensée et à imiter l'exemple qu'il nous donne. Le message est assez clair sur l'ensemble de ce que nous avons lu. Pour avancer dans la vie chrétienne, il faut qu'elle imprime vraiment une orientation à notre existence. Pour avancer, il faut une démarche volontaire, une démarche choisie, une démarche intentionnelle. Essayons d'explorer un peu plus précisément, à la lumière de notre texte, ce que cela peut recouvrir. Alors d'abord, il nous faut préciser le cadre de pensée dans lequel tout cela s'inscrit. Paul fait un gros plan sur lui-même, engagé dans une course. Mais vous savez, quand on fait une photo avec un gros plan, il s'agit toujours de voir ce qu'il y a autour. Et en fonction de ce qu'il y a autour, ça peut quand même faire une certaine différence quand on a juste fixé un gros plan. Dans quel cadre situer ce gros plan où Paul se décrit comme quelqu'un qui court vers le but ? Est-ce que c'est par exemple un stade où le seul horizon est la ligne d'arrivée ? On est là dans le stade et il faut ne regarder qu'à une chose, cette ligne d'arrivée qui est là devant. Est-ce que c'est une compétition peut-être ? Où il faut tout faire pour être le premier? Est-ce que c'est un chemin plus ouvert qui vient de loin et sur lequel on court, mais avec un horizon beaucoup plus lointain devant soi? Ça change un tout petit peu la perspective de la course selon la façon dont on envisage le contexte. Alors, il faut voir un petit peu ce que Paul nous dit. On peut déjà écarter l'image de la compétition entre chrétiens. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il nous faut envisager la course de la vie chrétienne. Paul n'envisage pas du tout qu'il faudrait essayer de faire mieux que les autres. Au contraire, il nous invite à avoir une même démarche, une même pensée, et même, dit-il, à avancer ensemble au point où chacun est parvenu. Et d'ailleurs, c'est assez touchant de voir que dans ce passage, Paul nous parle en frère tout autant qu'en apôtre. Il dit « Mes frères, pour moi-même, en tout cas, j'estime ne pas encore avoir remporté le prix de la course. Autrement dit, je suis encore en chemin et nous sommes frères de route, les uns et les autres. Mes frères, je suis comme vous, dit l'apôtre en quelque sorte. Même si, un peu plus loin, il dit aussi que d'une certaine façon, il a un rôle d'exemple. Soyez mes imitateurs et considérez ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ici, c'est l'apôtre qui parle. Mais pas comme s'il était au-dessus du lot. Il parle comme étant engagé dans la course, comme les autres, sans la survoler de manière particulière. On est frères de route tous, c'est ce que nous dit l'apôtre. Il y a donc du monde dans cette course, et des gens appelés plutôt à s'encourager les uns des autres qu'à être en compétition les uns avec les autres. C'est un premier point. Mais quel est l'horizon de cette course ? On considère souvent que Paul a en tête, dans cette image qu'il emploie, d'un coureur qui court vers le but, l'image des athlètes des Jeux Olympiques ou des Jeux qui avaient lieu ailleurs, sur le même modèle. Et cette image d'un homme tendu vers l'avant qui oublie ce qui est en arrière pour ne se fixer que sur le but fait penser à un athlète dans un stade, les yeux rivés, le corps tendu vers la seule ligne d'arrivée. Du coup, ça donne une perspective très, très étroite, d'un engagement très concentré, qui ne voit que le but, que la ligne d'arrivée là, qui est proche. Est-ce bien cela l'image ? Si on essaye de regarder un peu plus loin la façon dont Paul parle de cette course, on se rend compte quand même qu'il faut peut-être élargir un peu la perspective. En effet, le départ de la course remonte à loin. Paul dit « Je cours parce que j'ai été saisi par Jésus-Christ ». La course dont il parle, ce n'est donc pas la course d'un jour, la course d'un moment, c'est la course de toute une vie. Et au moment où Paul écrit cela, je cours vers le but, ça fait déjà des années qu'il est en route. À la fin de sa vie, Paul dira, j'ai achevé la course. Et cette course achevée, c'est aussi tout un parcours très long. Donc on est bien ici dans la longue durée. Et l'horizon de la course ne semble pas être une ligne d'arrivée qui serait juste là, à toute courte portée. Paul veut obtenir le prix de l'appel d'en haut, nous dit-il, l'appel d'en haut donné par Dieu en Jésus-Christ, au verset 14. Pourquoi dire l'appel d'en haut ? C'est vraisemblablement pour dire que ce prix, nous le recevrons à la fin de notre pèlerinage, lorsque nous irons vers le Seigneur, ou qu'il reviendra du ciel vers nous. C'est ce que Paul précise à la fin de notre passage. Notre cité à nous, elle est dans les cieux, et c'est de là que nous attendons vraiment comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'horizon de l'apôtre Paul. Notre vraie citoyenneté, elle est auprès du Seigneur dans la gloire. Nous marchons, nous courons tendus vers cette citoyenneté qui se manifestera en Jésus. Alors si j'essaye de faire un bilan de tout cela, l'image globale qui se dessine, ce n'est pas celle de la course d'un jour à l'occasion d'une compétition sportive. Non, c'est une course beaucoup plus longue, beaucoup plus diversifiée. Une course dont l'horizon compte, mobilise et porte vers l'avant. Mais pas forcément à la façon d'une ligne d'arrivée toute proche qui est là et vers laquelle on met tous ses efforts. Vous voyez, moi maintenant, quand j'essaye de mettre une image devant toi, c'est un petit peu, vous savez, imaginez la plus belle image de Décathlon, avec la montagne, avec tout cela, un magnifique chemin sur la montagne, et une belle perspective longue, on a déjà couru tout un bout, et on continue encore. Voilà, moi c'est un peu comme ça que maintenant, je me figure cette chose-là, même si Décathlon, pour l'apôtre Paul, ça ne voulait pas dire grand-chose. En tout cas donc, il faut envisager cette perspective, semble-t-il, de manière large, et non pas avec un faisceau tout à fait étroit. Paul, en tout cas, lorsqu'il parle de la course de sa vie, de cette course qu'il mène vers le but, est d'une honnêteté remarquable, en ce qui le concerne. Et il unit humilité et détermination. Et il dit, je ne suis pas encore au bout de la course, mais pourtant, je suis tout entier et je suis mobilisé. Je ne suis pas encore au bout de la course, c'est ce qu'il dit au tout début, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté la course. Il ne se considère pas comme un vainqueur déjà arrivé, déjà sur le podium. Tant que la vie continue, il faudra continuer à avancer, à être fidèle, à progresser. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit cela, avec tout ce qu'il a comme bagage, comme connaissance, comme vie avec Dieu. Certains chrétiens aujourd'hui ont un tout autre langage. Nous sommes une race de vainqueurs. Nous régnons avec le Christ. Dieu ordonne que tu règnes dans cette vie. Paul nous dit, moi en tout cas, je ne suis pas encore arrivé. Je n'ai pas encore remporté. Je ne suis pas au bout de la course. Je ne suis pas au bout de l'effort. Sa deuxième affirmation est plus délicate à comprendre. Ce n'est pas donc d'abord que j'ai déjà remporté et ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Ou que ce n'est pas déjà que j'ai atteint le but. Alors le mot est difficile à traduire. Parce que bon, le mot globalement, il exprime l'idée d'un accomplissement. Je ne suis pas encore accompli, je ne suis pas arrivé à l'accomplissement. Mais qu'est-ce qu'exactement que cet accomplissement, le mot lui-même ne le dit pas. Est-ce que ce texte veut nous dire qu'il nous faut viser la perfection? Je n'ai pas encore atteint la perfection. Cette idée de perfection est une idée très délicate à manier. Car quand on parle de perfection, ça veut dire que l'on réunisse toutes les qualités dans tous les domaines. Pas la place pour la moindre faille, le moindre manque. Et la perfection, c'est une loi absolument impitoyable. Et une loi qui peut devenir très destructrice et tyrannique. La perfection ne dit jamais assez dans aucun domaine. Est-ce que c'est exactement cela, ce que Paul vise? Il faut que vous soyez parfait. La perfection, sans aucun manque, nulle part, les qualités parfaites en tout. Lorsque Paul parle des objectifs de sa vie chrétienne, il a un autre langage. Nous l'avons lu au verset 10. Mon but, c'est de connaître Jésus. Cette connaissance implique une relation avec lui, implique le don de sa grâce, le don de sa justice. C'est lui, Jésus, qui nous revêt de sa justice et ce n'est pas nous qui devenons parfaits. Mais connaître Christ, pour l'apôtre Paul, c'est aussi être transformé par lui. Et Paul dit, je veux connaître Jésus, ça ne veut pas dire juste avoir une relation avec lui, ce qui est déjà beaucoup. Mais connaître aussi, dit-il, la puissance de sa résurrection. Et Paul évoque par cela la puissance de Jésus à transformer nos vies. Une puissance qui s'est manifestée vraiment dans sa résurrection à lui d'entre les morts. Mais Paul parle aussi en disant connaître Jésus, cela voudra dire connaître la communion de ses souffrances. Ce qui veut dire souffrir avec ce qui aussi fait souffrir Jésus d'une certaine façon. Endurer certaines difficultés par le Christ et pour lui. Faire face peut-être à certaines oppositions comme lui a fait face à certaines oppositions. Endurer aussi solidairement et par amour certaines souffrances que je vais partager avec d'autres. Tout cela, voyez-vous, ce n'est pas la perfection au sens abstrait, mais c'est la vie même de Jésus que nous sommes appelés à reproduire, qui est appelée à s'imprimer en nous. Ce sont les dispositions de Jésus qui sont appelées à s'imprimer dans notre vie. Ce sont les manières d'être, d'agir et de réagir de Jésus qui sont appelées à devenir en quelque sorte les nôtres. Ces pensées qui deviennent nôtres parce que nous vivons près de lui et parce qu'il nous transforme par son esprit. Dans l'Épître aux Galates, Paul dit que son désir, c'est que Christ soit formé en nous. Christ formé en nous. Ça, c'est le but de la vie d'un chrétien, que Christ soit formé en nous. Mais formé dans le cadre d'une relation que nous avons avec lui. Et c'est cela qu'il nous faut atteindre. Non pas une perfection tyrannique et abstraite que nous devrions atteindre, que nous devrions construire, mais Christ formé en nous. Parce que Christ vivant avec nous et parce que Christ agissant en nous par son esprit. Et Jésus lui-même a vécu cette vie pleinement accomplie, cette vie d'homme telle que Dieu la veut, dans toute sa plénitude. Et il l'a vécu, cette vie pleinement accomplie, au cœur d'une existence authentiquement humaine. Et pour Jésus, il a fallu aussi aller jusqu'au bout de sa route, dans l'amour, dans la justice, dans la fidélité. Et de même, pour nous aussi, il faudra aller jusqu'au bout de notre route, de notre vie, de notre marche, en le laissant grandir en nous. Vous voyez, le but, ce n'est pas un certain niveau de sainteté auquel il faudrait atteindre et qui serait la ligne d'arrivée en disant « quand j'ai atteint ce niveau de sainteté, ça y est, j'ai franchi la ligne, j'ai gagné ». Ce n'est pas cela. C'est aller jusqu'au bout de la course, avec le Seigneur, comme lui-même est allé jusqu'au bout de sa marche. Mais c'est vivre avec lui, en faisant de chaque moment, de chaque étape, une manière de lui plaire et une façon où nous pouvons reproduire quelque chose de ce qu'il a été, quelque chose de ce qui lui fait plaisir. J'ai été saisi par le Christ, dit Paul, je veux le connaître maintenant, vraiment, dans tout ce que je vis. Et cette orientation de connaître Christ dans tout ce que je vis, que je vis que Christ soit vraiment formé en moi et manifesté dans toutes mes circonstances. Paul dit, ben ça c'est vraiment une vraie, ça c'est une vraie nouveauté. Et c'est ça ce qui nous fait comme courir de l'avant. Oubliant ce qui est en arrière et tendu vers l'avant, je cours vers ce but. Quel est-il finalement le but de la vie chrétienne? Ce but vers lequel nous courons? Il me semble que si on essaie de bien saisir l'image globale, il nous faut dire qu'il y a deux choses. Le but, la première façon, c'est de dire aller jusqu'au bout du chemin avec le Seigneur, jusqu'au rendez-vous final qu'il nous fixe, soit par la fin de notre vie, soit par son retour. Ça, c'est le côté persévérance, courir jusqu'à la fin, courir jusqu'au but. Mais la deuxième facette, me semble-t-il, du but vers lequel nous courons, c'est de dire que dans chaque situation que nous vivons, nous voulons que Jésus soit glorifié. Dans chaque situation nouvelle que nous vivons, nous voulons qu'il se forme un peu plus en nous. Nous voulons qu'il agisse un peu plus dans notre vie. Et cela, c'est quelque chose qui doit nous tirer en avant. Ça, c'est une nouveauté de chaque nouvelle situation, de chaque nouveau pas que nous faisons dans la vie. C'est une nouveauté à laquelle il nous faut vraiment aspirer, comme un coureur qui met du sien à chaque foulée. Et il y a là une intention, une volonté à mettre dans chaque acte, à mettre dans chaque situation nouvelle que nous rencontrons tout au long de notre marche. Courir vers le but, donc. Il y a une persévérance, parce que la route est longue, oui, mais il y a aussi une intensité et une intentionnalité à mettre dans chaque situation, pour que dans chaque situation de notre vie, Christ soit formé en nous, Christ soit manifesté dans notre vie, Christ soit honoré dans cette situation. Et cela, d'une certaine façon, c'est toujours neuf. Ça oblige à regarder devant, à regarder dans l'avant. On ne peut pas se complaire dans ce qui a déjà été. On ne peut pas se complaire dans ce qui a été déjà fait. Il ne faut pas non plus nous laisser arrêter par ce qui n'a pas été dans notre vie, ou par ce qu'on a manqué peut-être dans notre vie, ni nous laisser décourager par certaines lenteurs personnelles ou liées aux autres. Et c'est pourquoi Paul dit « oubliant ce qui est en arrière, mais tendant vers ce qui est devant ». Hein ? Toujours à nouveau, il y a cette réactualisation de la vie du Christ en face de ce que j'affronte, en face de ce que je traverse. Toujours à nouveau, il s'agira de relancer l'objectif, que Christ soit glorifié et formé en nous. Toujours à nouveau, il faudra prier vraiment, mais Seigneur, que dans cette situation que je vis, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mettre cette intention bien présente au cœur de ce que nous vivons dans chaque situation nouvelle. C'est cela, me semble-t-il, vivre cette marche à laquelle Paul nous invite, à la fois dans la persévérance longue et dans l'intensité de chaque situation nouvelle. Petite question. Faut-il faire table rase du passé, puisque Paul nous invite à oublier ce qui est en arrière, et les 125 ans de notre Église, et l'apport de ce que nous avons chacun déjà vécu? Faut-il passer tout ça par pertes et profits? Il faut bien comprendre dans quel sens Paul parle ici. Paul veut que nous laissions de côté tout rapport au passé qui nous détournerait de la vie à mener aujourd'hui avec le Seigneur et pour lui. Il ne faut pas que le passé nous enferme dans une nostalgie ou dans une idéalisation qui nous découragerait pour ce que nous avons à faire aujourd'hui. Il ne faut pas que nous devenions des gens qui sont en train de se plaindre en disant que c'était mieux avant et qui sont complètement démobilisés pour ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Il ne faut pas non plus que nos propres fautes ou nos lacunes nous tirent toujours vers le bas et nous découragent d'avancer. Paul nous rappelle que ce n'est pas avec notre propre justice que nous avançons, mais c'est avec la justice que nous recevons de Jésus-Christ, toujours à nouveau par son pardon. Et nos fautes ne méritent vraiment pas de devenir un boulet qui nous tire toujours vers le bas et qui nous empêche d'avancer. Il nous faut les déposer, les confesser pour avancer tout à nouveau avec le Seigneur Jésus. Oublier ce qui est en arrière, c'est aussi peut-être savoir laisser tomber les amertumes et les rancœurs. Elles non plus ne méritent pas de nous obséder, de nous entraver, de prendre tout notre horizon, toute notre pensée, toutes nos énergies, nous empêchant d'avancer. Voilà, dans ce sens-là, oui, il nous faut oublier ce qui est en arrière. Si ce qui est en arrière devient une entrave pour nous projeter vers ce qu'il y a à faire jour après jour, dans la façon d'actualiser la présence du Christ dans notre vie. Mais par contre, se souvenir du passé pour nous encourager à marcher, pour mesurer les bienfaits de Dieu, pour dire une reconnaissance, pour dire une confiance en Dieu, oui, cela est très positif. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Ça, c'est une aide. Ça, c'est une belle parole de l'Écriture. Ça, c'est une mémoire qui est bonne. Voilà donc Paul qui nous parle de sa manière de courir la vie, d'envisager la vie, avec à la fois une perspective longue et cette intensité pour chaque instant dont il s'agit de trouver la force et l'intention jour après jour. Jusqu'ici, Paul a parlé, vous l'aurez remarqué, à la première personne, du singulier, en disant « je ». Et il parle avec beaucoup d'authenticité de sa façon de vivre avec Dieu. Et il se livre un petit peu. Et c'est très sincère, c'est très beau à recevoir. Mais en même temps, Paul souhaite aussi aller un peu plus loin. Et il voudrait aussi encourager ses frères et sœurs dans la foi. Et c'est pourquoi il dit « nous tous », au verset 15, « nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée ». Nous tous qui sommes des hommes faits. Vous, le mot que Paul emploie ici renvoie au début. Il disait « je n'ai pas encore atteint l'accomplissement ». Nous avons dit qu'il vaut mieux comprendre ça plutôt que parler de la perfection. Mais il dit « nous tous qui sommes accomplis, ayons cette même pensée d'avancer toujours ». L'accomplissement dont Paul parle ici est celui de la maturité chrétienne. Nous tous qui sommes des hommes faits. Des gens qui ont une certaine maturité. Et Paul reconnaît donc ici qu'il peut y avoir des étapes et qu'il est légitime de mesurer, de constater qu'on a mûri dans la foi. Et ça, c'est une bonne chose aussi de temps en temps de faire un petit point et de se dire, tiens, où est-ce que j'en étais il y a un an, il y a deux ans? Tiens, j'ai mûri peut-être dans la foi, merci Seigneur. Donc c'est bon, c'est légitime de constater que l'on a mûri dans la foi. C'est toujours encourageant. Mais par contre, ce que Paul dit, nous tous qui sommes des hommes faits, des gens mûrs, ayons cette même pensée. C'est-à-dire, cette même pensée de toujours continuer à avancer. Et ce que Paul dit, en quelque sorte, c'est que même un chrétien bien mûr et bien fondé, cela ne le dispense pas de rester bien tendu vers l'avant, avec ce désir régulier et toujours renouvelé d'actualiser notre foi en face de chaque nouvelle situation, et de progresser. Nous tous, dit Paul, qui sommes des hommes mûrs, personnes qui ont déjà, oui, acquis quelque chose, ayons cette même pensée de continuer. Mais le « nous tous » qu'envisage l'apôtre Paul n'est pas complètement uniforme. Car Paul envisage aussi, après avoir dit cela, après avoir encouragé chacun, tous ensemble, à avoir cette même pensée de grandir, il envisage aussi que certains, sur certains points, puissent avoir une autre manière de vivre, de voir les choses que de lui. Nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et, dit-il, si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Paul envisage qu'il puisse y avoir différentes manières de penser sur tel ou tel point. Alors il ne s'agit pas ici des fondements de la foi. En ce qui concerne les fondements de la foi, Paul dénonce, par exemple, ceux qui vivent en ennemis de la croix, au verset 18. Hein, il dénonce ceux qui vivent là comme des ennemis de la croix, qui, sur les choses essentielles, sont donc complètement à côté de ce que Dieu attend de nous. Mais lorsque Paul parle de la vie chrétienne, de la façon de l'actualiser concrètement, il sait que nous n'avons pas tous les mêmes priorités, les mêmes accents. L'un donnera peut-être un peu plus d'accent à la prière dans sa vie chrétienne. L'autre donnera un peu plus d'accent à l'action dans sa vie chrétienne. L'un pense qu'il faut s'investir à fond dans l'annonce de l'Évangile. L'autre pense qu'on a aussi besoin de consolider la foi des chrétiens. Il me semble que Paul, avec beaucoup de maturité, ne cherche pas à régenter, ne cherche pas à imposer sa propre manière de faire. Il laisse à Dieu le soin d'éclairer chacun sur la façon dont il doit concrètement vivre sa vie, vivre son engagement avec Dieu. Et je crois que l'apôtre a cette ouverture de manière sincère. Hein, si vous êtes sur quelques points d'une pensée différente, Dieu va vous éclairer aussi. Et quand Paul dit « Dieu vous éclairera », il ne veut pas dire « Dieu vous montrera que c'est moi qui ai raison ». Ce n'est pas du tout ça qu'il veut dire. Il veut dire simplement, voilà, il respecte la dimension personnelle de la foi lorsqu'il s'agit de la traduire concrètement. Tous ne font pas de la même manière. Mais son souci, c'est que chacun, au point où il est parvenu, garde ce désir d'avancer. Au point où nous sommes parvenus, dit-il, avançons ensemble. Et ça, c'est une belle image du peuple de Dieu qui est en mouvement. Ce qui compte, ce n'est pas exactement d'être au même point, chacun. Ce n'est pas de faire exactement la même chose. Mais ce qui compte, c'est que tous nous avancions là où nous en sommes, dans ce que nous vivons, que nous cherchions vraiment à faire, très concrètement, jour après jour, ce que Jésus attend de nous. Un dernier mot à propos de l'horizon final vers lequel nous marchons. Vers quoi avançons-nous tout au bout de l'horizon ? Lorsque Paul parle du prix qu'il vise et qui oriente tous ses efforts, il ne précise pas exactement ce qu'est ce prix. Il dit simplement que c'est le prix de l'appel d'en haut, reçu de Dieu en Jésus-Christ. Et cela renvoie à ce moment où la réalité humaine, avec ses luttes, avec ses combats, ses sacrifices, où cette réalité fera place à la gloire qui descendra vraiment du ciel pour nous. Quelques autres textes de la Bible éclaire ce que peut être ce prix. Jésus, dans une parabole qui évoque le retour du maître qui vient auprès des serviteurs auxquels il a confié une tâche, dit que voilà, il y a un moment donné où le maître va dire à ses serviteurs qui ont bien fait, de dire, écoute, t'as bien fait, bon et fidèle serviteur, bien fait. Est-ce que finalement, cette parole de Jésus, bien fait, bon et fidèle serviteur, est-ce que c'est pas cela la récompense la plus belle qu'un chrétien peut attendre ? Que c'est puisse dire, écoute, je suis heureux de ce que tu as tenté de faire pour moi, je suis heureux vraiment, c'est bien, c'est bien. Ça, je trouve que c'est vraiment une belle façon d'envisager le prix, la récompense. Paul parle aussi, à la fin de sa vie, de la couronne de justice que le Seigneur lui donnera. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, il est vraiment tout près de mourir, il sait qu'il va être bientôt exécuté probablement, et il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, même image, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé sa venue. L'apôtre Pierre aussi parle de cette couronne incorruptible de la gloire que Jésus, notre souverain pasteur, donnera à chacun des siens. Et l'Apocalypse décrit en quelques mots sombres la nouvelle réalité. Il parle de ce trône de Dieu et de l'agneau qui sera dans la nouvelle Jérusalem. Et il est dit, ses serviteurs le serviront, ils verront sa face et son nom sera sur tout leur front. Notre horizon, c'est vraiment ce moment où notre marche débouchera sur quelque chose de plus grand, d'infiniment nouveau, dans une relation éternelle avec notre Seigneur. Et Paul nous invite à courir et à achever, à persévérer dans notre course, à l'achever, en gardant toujours cet horizon bien présent dans notre cœur. Mais il ne s'arrête pas là. Et il ne s'agit pas simplement de dire que voilà une sorte d'horizon un peu immobile vers lequel nous marchons. Car, dit-il, notre cité, notre vraie citoyenneté est dans les cieux. Et de là, nous attendons le Sauveur. Nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié, le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il y a là en quelques mots des choses immenses qui sont affirmées, mais ce que j'aimerais relever ici, c'est le mouvement. Ce n'est pas simplement nous qui marchons vers un horizon que nous devons atteindre. Mais Paul nous dit, c'est aussi d'une certaine façon l'horizon qui vient vers nous pour tout renouveler en la personne du Seigneur Jésus. Et nous attendons vraiment qu'il vienne. Soyons dans ces dispositions. Soyons dans les dispositions pour nous, oui, de courir jusqu'au bout de ce que le Seigneur nous demandera. Mais rappelons-nous aussi que le Seigneur vient et que lui fera toutes choses nouvelles. Comme le dit le cantique que j'aime bien, que nous allons chanter tout à l'heure, jusqu'à ma mort, ou son retour, par sa puissance, je tiens debout. Et je crois que c'est bien de nous rappeler ces deux choses. Ce n'est pas simplement nous qui sommes conviés à aller jusqu'au bout de la chose, mais c'est aussi le Seigneur qui saura venir. Et notre vraie appartenance, notre vraie citoyenneté, le lieu de notre ancrage est dans les cieux avec le Christ, et c'est lui qui viendra pour amener tout cela et nous permettre vraiment de vivre ce qu'il a en réserve pour nous. Alors voilà, c'est ainsi que nous pouvons aussi avancer. Et je laisse le dernier mot à l'apôtre Paul qui dit « Ainsi donc, frères et sœurs bien-aimés, demeurez fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurons fermes dans le Seigneur et que notre marche soit belle, vivante, actualisant toujours la présence de notre Dieu en chaque circonstance de notre vie. Amen. »